Nous avons depuis quelque temps parlé du premier ciel, deuxième ciel, du troisième. Et une des questions qui apparaissait dans la prédication de la fois dernière, si le troisième ciel est le paradis de Dieu et la résidence de Dieu, comment nous, en tant que chrétiens physiques, nous puissions vivre le royaume de Dieu sur cette terre ici-là, puisque nous le disons dans notre prière. Et cette prédication d'aujourd'hui va apporter une réponse, sinon la totalité des réponses, plus ou moins, à cette question combien fondamentale. Elle est très importante. Marcher dans l'esprit ou marcher selon l'esprit. Nous avons dit que Dieu est esprit. On ne le voit pas. En revanche, l'homme, il est physique, il est tangible. Il est composé de trois parties, d'après la Bible. Du corps que nous voyons, qui est en contact avec l'environnement, avec ses cinq sens. De l'âme, qui est la partie que nous ne voyons pas, dont on parlera un tout petit peu. Du rôle, l'âme, qui est le siège de la volonté, de nos sentiments, de nos émotions, de nos pensées, qui a commencé déjà à être formaté lorsque nous sommes dans le ventre de notre mère. Et lorsque nous naissons, notre environnement dans lequel nous avons vécu y participe. Et parfois, notre personnalité est déterminée par le profil de notre âme. Extraverti, introverti, timide ou alors courageux. Tout se joue dedans. Toutes les blessures que nous avons eues dans notre vie, toutes les mauvaises choses que nous avons eues dans notre vie, ils se replient dans notre âme et ça détermine notre comportement. Et ensuite, nous avons l'esprit, qui est le parti de contact avec Dieu. Cette partie, l'animal ne le connaît pas parce que l'animal n'est pas religieux. Cette partie, la plante ne connaît pas parce que la plante n'est que corps. Et c'est là où tout se joue. Et pour être en contact avec Dieu, il faut naître de nouveau, par la parole. Et comme naissance nouvelle, il faut que l'homme nouveau grandisse, qu'il mûrisse. Mais il va rentrer en confrontation avec ce que lui, l'âme, il sait, et il va chercher à étouffer l'esprit, même quand on devient chrétien. Voilà pourquoi vous avez la guerre tantôt, envie de faire le bien, vous ne le faites pas. Voilà. Et on va voir tout ça aujourd'hui. Au début, quand on lit la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 5, verset 24, il est parlé de Enoch. Enoch vivait avec Dieu et Dieu le prit, l'enleva. Ça, c'est l'image de l'Église, ça. Vivre avec Dieu et, après, il n'existait plus, enlevé. Dans Genèse 17, Dieu va dire à Abraham, « Marche devant ma face et sois intègre. » Et Jésus dira à ses disciples, « Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je serai que physique. Et physique, je ne pourrai être qu'avec vous, mais à un seul endroit à la fois. Par contre, si je suis esprit, je peux être en plusieurs endroits et je peux même habiter en vous. Voilà l'avantage. » Et marcher par ma force, par l'esprit. Donc on voit, marcher selon l'esprit, c'est marcher avec Dieu, marcher en face de Dieu et par le moyen de Dieu. Et ça, Jésus l'a tout accompli dans l'être humain. Et ça en arrière-plan, dans cette prédication de ce matin. Beaucoup de chrétiens disent que je doute de ma foi, parce que je me suis aperçu que depuis que je suis devenu chrétien, je ne suis pas meilleur qu'avant. Et vraiment, mais il y en a d'autres qui sont pires. Il y a des choses qu'on n'a pas vues, mais quand on devient chrétien, ça ressurgit. Et ils tiennent un langage de défaite. Mais ce n'est pas bon. Parce qu'un tel état d'âme offre à l'ennemi une belle occasion pour nous envoyer ce que la Bible dit, les traits enflammés du malin. Il nous suggère que nous ne sommes pas un bon chrétien, qu'un pauvre misérable hypocrite, nous trompons nous-mêmes et nous trompons les autres. Ne vous laissez pas embarquer dans une telle analyse. Même si par moments ça paraît vrai par rapport à nos actes. Et permettez-moi de vous dire que ce n'est pas par nos actes que Dieu nous juge. Mais Dieu nous juge par rapport à notre position en Christ. Si tel est le cas, vous pouvez commettre un acte qui est répréhensible, mais aussitôt vous vous réveillez pour dire, Seigneur, c'est ma chair qui le fait, mais je sais que je crois que tu as payé le prix à ma place. Et nous comprenons très bien que des gens qui vivent de tels combats, ils vivent dans une sorte d'angoisse. Ils dépensent beaucoup d'énergie. Parce que tantôt, ils font un effort pour être un bon chrétien, et voilà que patatras, vous chassez la nature au galop, et il revient. Et vous avez le sentiment de faire un pas en avant et deux en arrière. Vous allez à gauche et vous allez à droite, et vous avez l'impression de tourner en rond et que vous ne grandissez pas. Voilà la clé de ce qui va faire en sorte qu'on va faire un pas en avant. Priez avec moi. Seigneur, je me recommande ce matin entre tes mains et je recommande l'assistance sous ton autorité. Qu'aucun mot de ce message ne puisse tomber à terre et que chaque expression soit chargée de ta puissance pour nous faire avancer. Conduis-nous en eau profonde, dans le nom de Jésus. Amen. On va lire Galates chapitre 5, Galates 5, verset 16. Mais si on peut commencer un peu en haut, à partir du verset 1, ce serait bien. Non, pas verset 1, mais un peu en haut. Je veux voir quel verset pour que le chemin soit complet. Verset 13. Voilà. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre ou pour vivre selon la chair. Ah, souvent, on dit que c'est ma liberté, je fais ce que... C'est mon corps. C'est ma vie, c'est mon temps, c'est mon argent. Regardez la réponse. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des diacres les uns des autres. La liberté de Christ, c'est de servir. Jésus l'a montré dans Jean chapitre 13. Comment vivre en chrétien, être serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et permettez-moi au passage, soyez au point avec vous-même. Aimez-vous tel que vous êtes. Parce qu'il n'y a pas un autre exemplaire de copie comme vous. Mais, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde de ne pas être détruits les uns par les autres. Et ensuite, ce verset vient. Continuez. Je dis donc, voilà mon verset. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Dans Romains chapitre 8, verset 9, au verset 5 à 9, ça je le lis. En effet, ceux qui vivent selon leur propre nature se préoccupent de ses propres désirs. Mais ceux qui vivent selon l'Esprit Saint se préoccupe des désirs de l'esprit. Se préoccuper des désirs de sa propre nature mène à la mort, mais se préoccuper des désirs de l'esprit mène à la vie et à la paix. Ceux qui sont dominés par les préoccupations de leur propre nature sont ennemis de Dieu. Ils ne se soumettent pas à la loi de Dieu. Ils ne le peuvent même pas. Ceux qui dépendent de leur propre nature ne peuvent pas plaire à Dieu. Croire en Jésus-Christ mort et ressuscité, affranchi du pouvoir du péché et rend juste devant Dieu. Cette libération doit s'épanouir dans le comportement du croyant. Il est appelé à devenir ce que le Christ a fait de lui, car le risque de se laisser entraîner par sa faiblesse et de retomber dans le péché existe toujours. L'Esprit de Dieu vient au secours de notre faiblesse humaine. Il aide à vivre comme des enfants de Dieu et non comme des esclaves. Celui qui se laisse conduire par l'Esprit peut, à la suite de Jésus-Christ, appeler Dieu son Père, qui signifie Abba. Mais vous ne vivrez pas selon votre propre nature, vous vivez selon l'Esprit Saint, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Alors, vous allez commencer à vous agiter. Non. Avoir accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est un acte du Saint-Esprit. C'est bien. Vous avez le salut. Mais vous vous êtes posé la question de savoir si vous avez le salut pour que Dieu ne vous a pas enlevé aussitôt. Dieu ne nous a pas enlevé lorsque nous avons le salut. Mais nous sommes encore sur cette terre. C'est parce que nous sommes encore sur cette terre avec le salut en nous et que nous devons vivre selon ce salut que ce message devient important et que nous avons besoin de marcher selon l'Esprit, par la force de l'Esprit, avec l'Esprit. À la lumière de ces passages, nous voyons qu'aux yeux de Dieu, il n'existe que deux types de gens dans le monde. Deux. Non, il n'y a pas d'intermédiaire là. Ou c'est noir, ou c'est blanc. Il n'y a pas de zone grise. Ceux qui lui appartiennent et ceux qui ne lui appartiennent pas. Autrement dit, il y a ceux qui vivent selon la chair, qui n'appartiennent pas à Dieu, et ceux qui appartiennent à Dieu, qui vivent selon l'Esprit. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que vivre selon la chair? Ça vient naturellement. Vivre selon la chair, c'est vivre selon la nature héritée de Adam. Et laissez-moi faire la différence. On peut devenir chrétien, mais continuer à vivre selon la chair. Et si on n'est pas chrétien, ça, il n'y a pas photo. On est pleinement dans la chair. On peut devenir chrétien, mais continuer à vivre dans la chair. Et c'est là où ce message prend tout son sens. Elle se caractérise par une âme qui est gouvernée par les cinq sens. Je vois, je crois. Je sens et j'y crois. Je touche, c'est vrai. Par contre, quand on est né de l'Esprit, on n'a pas besoin de voir, de toucher. Jésus-Christ a dit que heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. L'homme spirituel ne vit pas selon ses sens, mais il vit selon la foi. Et quand on parle de la foi, il n'est pas nécessairement qu'on doit sentir, on doit toucher. Mais on sait que la parole de Dieu est vraie à laquelle je crois. Parce qu'en tant que chrétien, la parole doit devenir comme un matériel que je touche. Quand je dis un mot, c'est comme si je touchais quelque chose de tangible. Voilà la puissance de la parole. C'est pourquoi que la parole est très attaquée. La première des choses qui a été attaquée dans le jardin d'Éden, c'est la parole. Parce qu'en attaquant la parole, on attaque la réalité divine. En attaquant la parole par le mensonge, on détruit le pouvoir de la parole. D'où il est important pour nous de veiller à ce que notre parole soit vraie. Et dire les paroles de Dieu, pas notre parole à nous. Parce que la parole humaine, elle s'épuise. La parole de Dieu, elle est créatrice. Tout ce qui est centré sur l'homme tourne vers l'infini qui détruit. Mais tout ce qui est centré sur Dieu s'ouvre. Son environnement s'élargit. Le Seigneur nous a donné les cinq sens pour que nous puissions vivre en harmonie avec notre environnement. Mais cependant, cette harmonie a été mise en mal par la chute. On appelle ça le cosmos. Le cosmos, ça, c'est le monde ordonné, créé par Dieu. Et ce monde ordonné, créé par Dieu, se retrouve fissuré comme conséquence du péché. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu non seulement pour nous sauver, nous, en tant qu'êtres humains déchus, mais il est venu également sauver l'environnement dans lequel le nouvel homme restauré est appelé à vivre. Donc Jésus est venu pour nous sauver par le salut, mais sauver également l'environnement. Et la Bible parle de nouvelles terres et de nouveaux cieux. Les anciennes choses seraient déjà nettoyées. D'où il est indispensable d'être au point de cette nouvelle nature que Dieu a plantée en nous et qui est appelée à grandir. La vie selon la chair est une vie centrée sur soi-même. C'est une vie pour une personne dont la mentalité est alignée sur le monde sensuel dans lequel il vit et il évolue. Mais si on vit dans ce type de monde sensuel, on vit dans un monde enfermé. Quelle que soit la longueur de la corde, on est enfermé dans un mode de pensée, dans une manière de voir, dans une manière de réfléchir, dans une mentalité qui est une mentalité humaine. C'est pour ça que lorsque nous recevons l'Esprit du Seigneur, Dieu va se mettre à nous faire désapprendre. Il nous vide de toutes les pensées qui sont les pensées humaines, l'essence de valeur sur lequel nous avons construit notre vie et qui n'est pas fondée sur la parole de Dieu. Dieu va le mettre tout en miettes. Et après, il nous redonne une mentalité nouvelle. D'où le sens du mot repentance et le renouvellement de la pensée à laquelle Dieu nous appelle. On peut devenir chrétien de nom, mais on peut ne pas devenir chrétien de mentalité. On peut être chrétien de nom, mais nous pouvons vivre en tant que chrétien dans une mentalité ancienne. Et là, il n'y a pas de progrès. On n'est pas un objet d'un témoignage. Là, on ne sera plus la lumière du monde que Dieu veut que nous soyons, au modèle de Christ. On n'est plus celle de la terre. Et c'est là où le travail du salut commence. Je ne dis pas pour le salut. Le salut, nous l'avons déjà. Mais le travail du salut, c'est de faire en sorte que je sois le reflet de la gloire de Dieu. Parce qu'en devenant chrétien, on devient une nouvelle création, une nouvelle nature, celle de Dieu, que nous sommes appelés à incarner. C'est pour ça que Jésus a dit que ce qui est né des parents humains est humain. Autrement dit, ce qui est né de la chair est chair. Mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors ne sois pas étonné, Nicodème, si je te dis qu'il faut naître de nouveau. La nature humaine. L'être humain est un esprit qui vit dans un corps possédant une âme, selon Thessaloniciens chapitre 1, versets 5 à 23. Que le Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui et qu'il vous garde entier. L'esprit, l'âme et le corps, irréprochables pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus. Le combat est celui de comment dompter mon corps. Comment faire en sorte que mes désirs soient alignés sur les désirs de Dieu. Comment faire en sorte que mes goûts soient alignés sur les goûts de Dieu. Ah, c'est impossible. Jésus, il a été Dieu, mais moi, je ne suis qu'un être humain. Fausse excuse. C'est possible. C'est possible. Comment les autres chrétiens du temps passé ont vécu? Et même, je ne peux pas parler du temps passé. Dans d'autres espaces autres que le nôtre, il y a des gens qui vivent cette réalité. C'est que c'est possible. Le corps. Le corps est la maison de l'âme et de l'esprit. C'est par lui que nous prenons contact avec le monde physique. Nous sentons les odeurs. Nous mangeons, nous apprécions et nous voyons les couleurs. Il n'est que l'enveloppe de la vraie personne qui habite à l'intérieur. Notre vrai moi, ce n'est pas ce corps que vous voyez. Ce corps n'est qu'un véhicule. Ce n'est qu'une enveloppe. Ce n'est qu'une voiture qui nous porte. Mais notre vraie nature, c'est celui qui est à l'intérieur. Et la Bible parle de l'homme intérieur. Ce corps retournera à la poussière, à la terre. Mais il reprendra forme sous une autre forme à la résurrection. Ce corps, vous voyez, il va retourner à la terre, mais il reviendra à la vie, mais sous une autre forme. L'âme. L'âme est le siège de nos émotions. C'est pour ça que parfois les émotions, quand elles se manifestent, elles peuvent se manifester de manière à s'imposer à nous. L'émotion peut être une dictature. Les gens pensent que les choses qui sont bonnes, là, c'est émouvant. Non, c'est la chair. C'est la chair. Et le diable s'est joué dessus. sur l'émotion. L'âme, c'est le lieu de notre intelligence, de nos pensées, de nos raisonnements, de la façon dont notre personnalité a été façonnée par les expériences que nous avons vécues, en bien ou en mal. Depuis le ventre de notre mère, déjà même nous pouvons être déjà façonnés. Un enfant qui n'a jamais été voulu venir au monde, qu'on tente de le tuer dans le ventre de la maman, il développe un réflexe d'un esprit rejet, dès la naissance. Et il faut qu'à la conversion, la mère de Dieu passe pour lui donner une nouvelle naissance. Peu importe la façon dont vous venez au monde, que vous êtes venu par le viol ou par quoi que ce soit, devant Dieu, ce n'est pas son problème. Lui, il veut faire de vous une nouvelle créature. C'est ça qui compte. Mais il veut guérir tout ce qui est passé. Tant que ça n'a pas été guéri, vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne épanouie. Et souvent dans le milieu chrétien, on se précipite de venir dans l'œuvre de Dieu sans pour autant prendre le temps de rester auprès du Seigneur, obtenir de lui la guérison. Souvenez-vous, que dit Jésus ? Venez à moi, vous qui êtes fatigués. Et après, il dit, allez, entrevenez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Il y a un traitement que Jésus est en train de faire, vous guérir, vous reconstruire, vous redonner une manière de voir nouvelle. Et après, il dit, allez, vous ne pouvez pas aller sans pour autant avoir reçu de la part de Dieu ce traitement indispensable. Et dans ce traitement, vous avez la possibilité de tout recevoir. La guérison, les miracles, l'exaucement de la prière, la présence de Dieu, la fidélité manifestée de Dieu, et vous le portez comme un instrument pour aller témoigner. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Et l'esprit. L'esprit est la partie, aux yeux de Dieu, la plus importante de l'être humain. Sans contredit, bien sûr. L'esprit, c'est la vraie personne que nous représentons. Il a été formé par Dieu par le souffle. Car la Bible a dit que le souffle de l'homme est l'esprit et la lampe de Dieu. Nous pouvons hériter du royaume de Dieu que si nous sommes nés de nouveau, pas par la chair. Parce que le royaume de Dieu, il est esprit. Comment la chair peut rentrer dans le domaine de l'esprit ? Voilà. Tout ce que nous voyons parfois, c'est de manière imagée. Ce n'est pas matériel. Parce que Dieu est l'esprit. Alors les deux natures se manifestent dans la vie du croyant. Vous avez hérité la nature d'Adam et Ève. Voilà que vous êtes devenus chrétiens. La nature de Dieu a été plantée en vous. Et vous devenez le théâtre de deux natures. La nature de Dieu et la nature de la chair. Celle qui veut obéir à Dieu et l'autre qui dit que non, 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 tu restes mon esclave. L'apôtre Paul avait décrit cette dynamique de deux natures de la manière suivante. Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je voudrais faire, mais je fais ce que je déteste. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. L'homme soumis à la loi est divisé en deux forces contradictoires. Il est attiré vers le bien, mais il constate qu'il est en train de faire le mal. Quelle situation tragique! Et il va crier, qui va me délivrer de ce corps de mort. Et il va trouver aussitôt la réponse. Gloire soit rendue à Jésus. Alléluia. La réponse est en Christ. La réponse, elle porte juste un mot, la croix. Notre nature animale fuit. Moi, je fais la chasse. Et chaque fois qu'un animal voit le chasseur, allez hop. Et notre nature humaine, animale, elle est toujours comme ça. Lorsque Dieu utilise une circonstance pour mettre à mort notre vieille nature, la peur de souffrir nous pousse à échapper de sa main. Oui. C'est l'histoire de Jacob, dans sa bataille avec l'ange de l'Éternel sur le mont Péniel, un mot qu'il était employé et que nous utilisons nous tous, nous les chrétiens, à tout bout de champ. Seigneur, bénis, bénis-moi. Et vous savez le sens de ce mot bénir? Et il a deux chambres, ce mot. Le premier sens signifie mets-moi à terre. Écrase-moi. C'est-à-dire, tue la vieille nature qui est en moi. Et après, tu me redonnes ce qui est en toi pour que je puisse prospérer. Et lorsque Jacob s'est battu avec l'ange de l'Éternel, bah, il est farouche, hein, ce Jacob-là. Hein. Coriace. Il s'est battu avec l'ange de l'Éternel jusque le matin. Waouh. Et l'ange ne pouvait pas le vaincre. Le soleil se lève. Jacob va lui dire que si tu ne partiras pas d'ici tant que tu ne m'es béni. L'ange a dit, hein, quoi? Et tu ne partiras pas d'ici tant que tu ne m'es béni. L'ange lui a donné un bon coup. C'est un ange karatéka. Il lui a donné coup sur la hanche. Il a déboîté l'ange. Et il ne pouvait plus se tenir. Vous savez comment est-ce qu'il a fait? Il s'est accroché à la jambe de l'ange pour tenir debout. Voilà l'image de marcher selon l'esprit. M'accrocher à Dieu. Si Dieu me lâche, je tombe parce que je n'ai plus de force. Mais si je m'accroche à lui, je reste debout. Voilà l'image de Jacob. Jacob est resté debout parce qu'il s'est accroché à l'ange de l'Éternel. Et marcher selon l'esprit, c'est m'accrocher à ce que Christ a fait pour rester debout. Et son nom a changé. Il n'est plus Jacob. Ah oui, il n'est plus Jacob. Il s'appelle Israël. Jésus représente le nouvel Adam. Quand le premier Adam, lui, nous a conduit dans le péché, le second Adam nous a conduit vers la lumière. Et Jésus est ce nouvel Adam. Et la Bible a dit que si nous sommes unis à Christ, nous devenons spirituellement un avec lui. Colossiens chapitre 6, verset 17. Vous voyez la puissance de ce mot? Quand quelqu'un est né de Jésus, il devient un seul esprit avec lui. Voilà la réalité du chrétien dans lequel habite le Saint-Esprit. Tout son être est touché. Tout son être est impacté. Ses goûts, son caractère, sa manière de faire. Et il doit chercher à l'aligner sur Dieu. Alors comment marcher selon l'Esprit? Et j'en termine. Éphésiens chapitre 5, verset 8, je le lis. Vous étiez autrefois dans l'obscurité, mais maintenant par votre union avec le Seigneur, vous êtes dans la lumière. Par conséquent, conduisez-vous comme des êtres qui dépendent de la lumière et efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Permettez-moi de noter quelque chose. La vie selon l'Esprit n'est pas une vie magique où le Saint-Esprit viendra nous forcer à aller dans la direction des choses de Dieu. Suivez-moi bien. Ça, c'est une grosse erreur que beaucoup de chrétiens commettent. Le Saint-Esprit travaille avec notre volonté. Et comment est notre volonté avant de devenir chrétien? Notre volonté toujours tournée vers le mal. La première des choses que Adam avait fait qui était mauvaise, c'était sa volonté. Il a mal orienté. Et depuis lors, notre volonté est toujours penchée vers le mal. On le redresse après. C'est pour ça que l'éducation de la parole de Dieu vise à redresser notre volonté sur la volonté de Dieu. Elle ne vient pas tout seule. C'est une éducation. Aider un enfant à ne pas tout lui donner, à lui faire éprouver de la frustration, très belle éducation. Ne donnez pas tout à un enfant quand tu le demandes. Il faut qu'il apprenne à subir les frustrations, le manque, pour éduquer son âme. C'est indispensable. Et parfois, le Seigneur nous fait passer par des situations difficiles où il ne nous attrape pas pour que nous apprenions. Éduquer notre volonté. Et donc, le Saint-Esprit travaille avec notre volonté. Il ne viendra que là où nous lui permettons d'agir. Tu as des mauvais penchants, oui. Mais ne dis pas, Seigneur, viens me délivrer de ça. Non, commence déjà, dans un premier temps, à faire le premier pas. Et le Seigneur viendra et fera le reste. Dieu ne forcera jamais. Les gens qui vous disent que tiens, vous avez énormément de défauts et de péchés, vous dormirez un jour, vous vous levez le matin, ça y est, tout est tombé, les liens sont tombés et que vous êtes devenu une nouvelle créature, tout ira bien. Faux. Il faut travailler à déconstruire. C'est par notre volonté que nous avons construit les mauvaises choses. Et Dieu utilisera notre volonté pour déconstruire, détricoter, point par point, les choses de notre vie. Avec notre volonté. C'est pourquoi la Bible a dit, efforcez-vous. Sinon, ça ne vient pas tout seul. Alors, dans les Écritures, la lumière représente deux réalités. Une réalité intellectuelle et une réalité morale. Mais même une réalité spirituelle. Voilà. Apporter la lumière. Ainsi, Colossiens 3, versets 1 à 4, je lis, paraphrasé simplement. Vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, alors cherchez les choses qui sont au ciel, où Christ est assis à la droite de Dieu, le troisième ciel. Voilà. C'est là où nous puisons notre source, en vivant sur terre. Et nous avons une influence sur le second ciel parce que la puissance de Dieu agit en nous et les démons, comme ils sont soumis à Jésus, nous sont soumis. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre véritable vie, le Christ, quand il paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui. N'est-ce pas? Alors, c'est dire que notre croissance, notre joie et notre fécondité spirituelle exigent que nous maintenions une bonne perspective dans le monde des choses qui concernent les choses de l'esprit. Nous sommes des pèlerins. On n'est que de passage. On n'investit pas tout. Notre objectif, c'est le ciel. Et c'est là où nous devons mettre notre point d'honneur à travailler pour le ciel vers lequel nous tendons. Mes bien-aimés, la nuit est avancée. Le jour s'approche, le jour de Jésus. Rejetons donc les actions qui se font dans l'obscurité. Prenons sur nous toutes les armes de Dieu. Conduisons-nous honnêtement, comme il convient aux enfants de la lumière. Gardons-nous de l'ivrognerie, des orgies. Gardons-nous de l'immoralité et des vices, des querelles et de la jalousie. Revêtez-vous de tout ce qui nous offre Jésus-Christ par sa mort à la croix. Car en lui, nous avons été équipés de tout l'équipement nécessaire pour vivre une vie nouvelle. Vous avez les éléments qui nécessitent, bien sûr, chaque point mérite d'être creusé. Mais ça nous suffit déjà pour que nous puissions avancer dans le Seigneur. Si nous sommes considérés comme morts, nous sommes morts. Il y a des choses auxquelles on ne peut plus être sensible parce qu'on est mort. C'est pourquoi la Bible a dit que considérez-vous comme morts et vivez pour le Christ. Considérer signifie un effort. Ça, je ne dois pas le faire. Ce n'est pas de ma nature. Je suis pur. Je n'ai pas besoin d'aller encore à nouveau dans la boue. Ce n'est pas de ça dont je me nourris. Je suis un aigle. Je n'ai pas besoin d'aller dans un poulailler avec les poules. Je survole haut. Et donc, on voit, mais bien sûr, nous survolons haut. Parce que la Bible a dit que nous sommes élevés, assis avec Christ, où? Dans les lieux élevés. Vous savez ce que c'est qu'un lieu élevé? On est au-dessus des ordures. On est au-dessus de ce qui se fait dans le monde. On est au-dessus de l'ennemi. Voilà notre position, mes bien-aimés. N'oubliez pas ça. Vous pouvez tout oublier, mais quand vous vous réveillez le matin, ah, j'ai encore les pieds sur terre à l'aise. Mais non, je suis dans le lieu élevé avec Christ. Vous allez voir que vous allez changer de perspective dans votre journée. Et si vous le faites assez régulièrement, vous éduquez à votre mentalité où il est. Vous le décrochez des réalités du monde qui nous entoure. Bon, on ne fait pas la politique de l'autruche. On vit dans un monde hostile, on vit dans un monde agressif. On doit être prudent comme les serpents. Mais cependant, nous avons une autre réalité qui est celle du ciel. Et c'est là où nous puisons nos sources. Beaucoup de choses vont tomber ce matin. Je vais prier. Il y a des liens invisibles qui remontent à très lointain. Des habitudes qui sont devenues véritables forteresses qui nous empêchent de voir la lumière, la gloire du Seigneur. Et après, le Saint-Esprit fera le reste, conjugué avec le Saint-Esprit. Et c'est lui qui va nous donner la force d'avancer. Je vous invite à la prière. Seigneur, marcher signifie que nous sommes en mouvement. Marcher signifie que nous quittons un point qui n'est pas bon pour aller vers celui qui est le meilleur. Marcher dans le domaine de l'esprit, c'est de quitter le monde du péché et de nous acheminer vers le monde de la béatitude, celle de la lumière. Oui, c'est de cette manière que Dieu nous a appelés à cette vie. Celle de quitter la nature de Adam pour coopérer avec la nouvelle nature qui est celle du Christ. Tu l'as même dit dans ta parole que si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est devenu une nouvelle création. Quoique nous n'avons pas changé, physiquement nous sommes les mêmes. Mais nous ne sommes pas les mêmes à l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'une transformation se fait. Car la nature de Dieu a été plantée en nous, en Jésus-Christ. Seigneur, fasse que cette nature grandisse. Que ce combat permanent qui nous épuise puisse cesser. Et que l'homme intérieur et spirituel qui aurait grandi prenne le relais dans nos réflexions, dans nos choix, inspire nos actions, inspire notre amour, nettoie nos émotions, guérit nos blessures intérieures. Comme un lac, notre âme reçoit beaucoup de blessures qui tentent de camoufler certaines choses. Mais ces blessures, Seigneur, de manière réflexe, conditionnent parfois nos actes, nos réactions, nous rendent parfois incapables de bénir ceux qui en veulent à notre vie, alors que tu nous demandes de bénir ceux qui sont nos ennemis, de leur donner à manger, leur donner à boire. Jésus était celui qui a été insulté, rejeté, traité de tous les noms, mais il n'a jamais laissé son cœur être infecté. Et à l'égard de ces personnes qui lui en veulent du mal, même sa mort, il a toujours eu une parole juste venant de toi, en leur direction. Et c'est de cette manière que tu veux faire chacun d'entre nous, pour que ton royaume s'étende. Combien de fois, par nos actes, nous participons à la restriction du royaume de Dieu? Au lieu que par nous, le royaume de Dieu s'étende, mais c'est par nous qu'il s'étouffe, qu'il s'éteigne. Oh Dieu, s'il te plaît, donne-nous de prendre conscience et de nous accrocher à toi comme Jacob s'est accroché à la jambe de l'ange de l'Éternel pour être debout, marcher selon l'Esprit. C'est marcher avec toi, marcher en ta présence, marcher par le moyen de l'Esprit. Alors viens, renouveler en nous ton Esprit, déverse en nous ton Esprit, Seigneur. Nous en avons suffisamment, notre corps en a besoin. Viens, Seigneur, mouille tout ce qui est sec, donne de la vigueur, de la vitalité à ce qui est évanoui ou ce qui est mort en nous. S'il te plaît, Seigneur, nous voulons faire ta volonté, mais par nous-mêmes, nous ne pouvions pas. Viens à notre secours. Et je détruis tous les liens, qui sont des liens du passé parfois, qui de manière tenace se manifestent dans notre vie malgré notre conversion. Nous voulons détruire ces influences. Nous les brisons. Nous affranchissons notre âme, Seigneur Dieu du passé, et nous plantons notre esprit dans un jardin nouveau, le jardin de la paix, de la joie, de l'amour, de la vérité, dans lequel nous voulons prendre fondement. Seigneur, bénis tes enfants. Renouvelle chacun d'entre nous, que nos combats cessent. La nuit est déjà avancée, le jour s'approche. Et nous voulons laisser dans la nuit ce qui est de nuit, et nous voulons revêtir les armes de la lumière. Nous voulons faire un pas supplémentaire. Nous n'allons pas aller en avant et revenir en arrière, comme nous l'avons dit. Nous prenons des résolutions chaque année, mais nous nous rendons compte que nous n'avançons pas trop. Mais cette fois-ci, Seigneur, il n'a plus question. Nous voulons avancer avec toi. Viens prendre quelqu'un par la main et nous y conduire. Je t'en prie, je t'en supplie, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.